Alors, merci à Eric et à la Maison de la Philosophie de m'accueillir pour la 5e année consécutive. Et chaque année, on m'accueille avec la même qualité, donc je reviens toujours avec le même plaisir. Aujourd'hui, c'est pour le thème historique que je travaille depuis déjà quelques années, l'incroyance ce soir au Moyen Âge dans l'Occident médiéval. Alors, j'insiste sur l'incroyance au Moyen Âge, pas l'athéisme, c'est pas la même chose. J'aurais bien aimé aborder l'athéisme au Moyen Âge. Pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, c'est un petit peu compliqué. Alors, dans un premier temps, la différence entre l'incroyance et l'athéisme. Le terme athéisme, quand on regarde ces différentes définitions tout au long des siècles, c'est un terme fourre-tout, qui n'est jamais défini et qui assez systématiquement relève de l'insulte générale qu'on se renvoie d'une période à l'autre, d'un individu à l'autre, d'un adversaire à l'autre. On est toujours l'athée de quelqu'un à un moment donné, dans une société donnée, sans que ce qu'on entend par athéisme soit forcément clairement défini. Alors c'est un terme qui est toujours problématique. Le mot est ancien, on le trouve dans l'Antiquité grecque, hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mot va disparaître, puis réapparaître au 16e siècle. Mais le terme athéisme est évidemment très fortement connoté, hein, au travers de notre vision d'aujourd'hui, comme l'inexistence de Dieu, la transcendance, la fausseté des religions. Et le terme athéisme suppose la constitution d'un système de pensée construit qui va au-delà de la simple incroyance. Hein. Ce qui fait qu'il faut partir de l'incroyance, hein, comme attitude de rejet à différents degrés de Dieu et des vérités religieuses. Mais l'incroyance ne mène pas forcément à l'athéisme. Ça peut mener à l'agnosticisme, ça peut mener au scepticisme, ça peut mener à quantité de choses qui ne sont pas de l'athéisme, surtout pas au sens où on l'entend aujourd'hui, d'une totale inexistence de Dieu, des transcendances et, comme je le disais, de la fausseté des religions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par incroyance au Moyen Âge? Le terme est explicitement utilisé dans les sources, dans les textes, et on le trouve sous sa forme latine avec le terme incredentia. Alors, l'incredentia, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre, nous, par incroyance, puisque au Moyen Âge, on définit cette incroyance comme l'appartenance à des sectes chrétiennes, voire à d'autres religions, notamment l'islam. Ce qui fait que l'incroyance est une négation, c'est un rejet de tout ou partie d'une religion, que ce soit celle à laquelle on appartient de par sa naissance ou celle de l'autre. Il y a toujours dans l'incroyance un jeu de miroir, hein, par rapport à l'altérité et par rapport aux croyances de l'autre. L'incroyance au Moyen Âge gravite autour de trois éléments que je vais essayer d'expliciter ce soir. Premier élément, la négation de l'existence d'un Dieu actif dans le monde. Parfois, la contestation, la négation de l'existence d'un Dieu tout court. Deuxième point, la négation de la survie de l'âme après la mort. Ça, c'est une thématique qui revient assez systématiquement. Et le troisième point, la négation de la nature divine de Jésus. Et également, ça va avec la négation de la nature divine de Jésus. Un anticléricalisme parfois extrêmement marqué, dans la mesure où c'est l'Église qui véhicule le message sur la nature divine de Jésus. Alors on verra pour chacune de ces catégories un certain nombre d'exemples. Alors, je vais vous emmener dans des limites chronologiques qui sont comprises à peu près entre le 7e et le 16e siècle. Non pas que je ne veuille pas en sortir, mais l'accès aux sources est parfois compliqué. La barrière de la langue rend le travail encore plus compliqué. Et ce qu'il faut bien distinguer, c'est l'incroyance et l'athéisme d'un côté, et de l'autre côté, l'hérésie et l'hétérodoxie. C'est pas la même chose. L'hérésie suppose des querelles internes à l'Église. L'hérétique est un croyant, mais qui prétend réformer l'Église. Il va accuser l'Église d'avoir perverti le message religieux. L'hétérodoxie, elle, c'est un ensemble de croyants fidèles à la foi, mais qui va envisager d'autres modalités d'épanouissement de la foi que les modalités prônées par l'Église. Alors évidemment, le sort de l'hérétique, de l'hétérodoxe, de l'éviant, du déviant, pardon, de l'impie, de l'athée ou de l'incroyant au Moyen Âge est quand même assez systématiquement le même, on le verra plus tard. Alors je n'aborderai pas ce soir la question de l'hérésie qui pourrait nous occuper, on pourrait faire un colloque sur la question. Et Je m'en tiendrai à la définition de l'incroyance autour donc des trois éléments que j'ai dégagés à l'instant, ce qui nous permet de dégager trois catégories d'individus qu'on va faire adhérer à l'incroyance, non pas que je les fasse adhérer à l'incroyance, mais en fonction des textes et de ce qu'on a gardé de l'époque, on distingue trois catégories d'incroyants. Les barbares, donc extérieurs à la chrétienté, les intellectuels chrétiens, en l'occurrence les clercs, et les laïcs, que ce soit des laïcs membres de la noblesse ou des gens du peuple, hein, parce qu'on a les deux. Alors, à partir de ces trois catégories d'incroyants et de ces trois niveaux de contestation du message religieux, on va essayer de voir s'il existe une incroyance médiévale dans cette époque que l'on nomme le Moyen Âge, époque de foi, bien évidemment, dans laquelle l'Église paraît incontestablement un rouage majeur, à défaut d'être un rouage absolu, là aussi on va s'y arrêter. Et comme à chaque fois que j'interviens sur l'athéisme, je vais essayer de voir avec vous en quoi cette incroyance, parfois cet athéisme, est inacceptable pour les religions, que ce soit à l'époque du Moyen Âge, donc 7e, 16e siècle, et encore, bien évidemment, aujourd'hui, dans d'autres sociétés parfois que l'Occident. Alors, dans une première partie, je voudrais avec vous, histoire de contextualiser un petit peu le propos de ce soir, voir qu'est-ce que c'est la foi et la croyance au Moyen Âge. Alors, quand on parle du Moyen Âge, hein, on sous-entend un respect absolu de la religion, le rôle central de l'Église, une sorte d'âge d'or entre le ritualisme de la religion civique romaine et les crises à venir du XVIe siècle, avec notamment la montée de l'agnosticisme. Alors, c'est une vision du Moyen Âge qui relève un petit peu de l'image d'Épinal, hein. Il faut se convaincre que ce qu'on appelle, dans notre langage d'aujourd'hui, la foi du charbonnier, c'est-à-dire une foi naïve par laquelle les individus du Moyen Âge croient ce que l'Église croit sans discuter, ça n'est pas vrai. Vous avez quantité de gens au Moyen Âge qui critiquent, qui contestent, qui donnent des alternatives, qui ont par conséquent des difficultés, mais la foi du charbonnier, hein, la foi naïve, c'est quelque chose qui existe, mais il n'y a pas que ça loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Moyen Âge, si on veut replacer donc l'incroyance dans son contexte? C'est une époque de la foi, hein, beaucoup plus que du croire. Alors, la foi en langage latin, c'est la pistia. La pistia, la foi, c'est le concept central du christianisme. Ce qu'on appelle la foi ou la fides, c'est la confiance en Dieu, bien évidemment, mais dans une définition médiévale, ça n'est pas que ça. C'est également la confiance dans les hommes, c'est la confiance dans son Seigneur, c'est la confiance dans les rapports sociaux, et c'est la confiance dans ce qui est pertinent pour obtenir le salut. La définition plus stricte de la foi, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, arrivera un petit peu plus tard. C'est une question de foi, de confiance en Dieu et en quantité d'autres choses, parce que contrairement au Dieu capricieux de l'Antiquité, le Dieu chrétien, lui, pour l'Église évidemment, est considéré comme un Dieu fiable, un Dieu qui est digne de confiance. Hein. Les dieux grecs, hein, dans la mentalité des Grecs, avaient tendance à jouer avec la vie des hommes, un petit peu comme des pions sur un échiquier. Hein. Ce qui fait dire à Hugues de Saint-Victor que même les infidèles ont une foi, foi différente de celle de l'Église, mais les infidèles ont une foi. Et si je veux synthétiser ce qu'est la foi médiévale, eh bien je vais emprunter à Boèce, en plein XIIe siècle, un argument simple mais qui fait mouche. La foi, c'est l'argument du non-apparent, hein, tout n'étant pas visible aux yeux des mortels de cette époque, ou d'aujourd'hui encore. Alors, il y a la foi, il y a le croire, c'est pas la même chose. Croire, c'est du latin credere, c'est avoir une opinion sûre. Sur quoi? Sur un ensemble de représentations mentales portant sur Dieu, portant sur la religion. Même à l'époque, c'est considéré, du moins jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, là il y a une charnière sur laquelle je vais revenir, cette croyance est considérée comme un savoir faible, comme une opinion, comme un mini-savoir qui ne peut pas rivaliser avec la foi. Et de fait, par effet de contraste, l'incroyance, c'est un terme très large. Quand on parle d'un croyant au Moyen Âge, on parle de qui? On parle des athées, on parle des païens, on parle des juifs, on parle des musulmans, on parle des hérétiques. Dans ce gigantesque jeu de ping-pong, hein, où on se renvoie l'insulte comme la balle au jeu, c'est parfois assez difficile de faire la part des choses. Ce qui fait qu'au Moyen-Âge, il faudrait distinguer les incroyants de ceux qui font preuve d'apistia, en un seul mot. L'apistia étant l'absence de foi chrétienne. Ça paraît fondamental à cette époque. Donc, faire la différence entre les incroyants et ceux qui croient, mais autrement que, comme le dit l'Église. Croire autrement que, comme le dit l'Église, c'est tomber dans la fausseté, dans ce qu'on appelle la falsitas. Le diable étant à cette époque le fantasticus, c'est-à-dire le maître de toutes les faussetés, celui qui va générer des rêves faux. Et dans ce contexte que je brosse en quelques phrases très rapides, avoir la foi ou ne pas avoir la foi, c'est un jeu de miroir qui est forcément asymétrique, on n'est pas sur un rapport d'égalité. C'est un jeu de miroir qui est toujours au carrefour de nombreux points de vue, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Dans cette foi médiévale, qu'est-ce qu'il en est des pratiques religieuses? Parce que là aussi, je vais aborder la question. Elles relèvent d'un attachement coutumier, surtout pour ce qu'on appelle les laïcs, c'est-à-dire les minoresses. Les minoresses, les laïcs, doivent pratiquer, c'est-à-dire doivent évoluer dans le cadre d'une orthopraxie. On ne va demander qu'aux minoresses, aux majoresses, pardon. Les laïcs, ce sont les minoresses. Les laïcs, pardon, ce sont les majoresses, hein. Donc c'est l'écrasante majorité des gens, on leur demande de pratiquer, alors que les minorets, c'est-à-dire les membres du clergé, on va leur demander d'adhérer en bloc au dogme chrétien. Je vous disais, il y a une rupture. 12e, 13e siècle, il y a un certain nombre de changements qui font que la foi va être en crise. Alors ces changements, c'est l'émergence du droit romain, qui va permettre de réguler les rapports sociaux beaucoup plus efficacement. Là où la fides permettait de réguler les rapports sociaux, on s'aperçoit que le droit romain, le droit écrit, va proposer quelque chose de particulièrement efficace. Donc le droit écrit prenant une importance plus grande, il va y avoir une perte d'influence des liens légaux fondés sur la parole. Hein. D'autant qu'il y a une pression des laïcs pour participer à la vie religieuse, et du coup on a un nombre d'incroyants qui va enfin, mécaniquement apparaître parfois un petit peu plus grand qu'avant. Le remède qui va être proposé à cette crise, ça sera l'Inquisition, dont l'objectif va être de mesurer le degré d'infidélité de l'hérétique, de l'incroyance, et il va y avoir une mutation de la foi. La foi va devenir un lien personnel, intérieur, inconditionnel et absolu avec Dieu. C'est-à-dire, ça va devenir une abstraction, un élan du cœur, une adhésion immédiate, pleine et entière de l'esprit aux vérités religieuses. Alors, quoi qu'il en soit de l'importance de la foi au Moyen Âge, il n'empêche que le Moyen Âge est traversé par une quantité considérable de doutes. Doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, manque de confiance dans les promesses de Dieu qui mènent au désespoir, doutes sur le bien fondé de cette confiance en Dieu, et, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, doute sur l'inexistence même de Dieu, ça va parfois bien au-delà du doute. Alors, je vous ai dit, il y a trois catégories d'incroyants, et dans une première partie, je voudrais aborder l'incroyance des barbares, ce qu'on appelle les barbares, extérieurs à la chrétienté. Par barbare, il ne faut pas entendre hein, une espèce de sportif bodybuildé. Le barbare, c'est l'étranger par la langue et par la foi. Hein. Alors à partir de là, comme étranger à la foi, vous avez les Juifs, qui sont considérés comme étant aveugles à la foi nouvelle qui est portée par Jésus. Pour l'Église, le Juif reste meurtrier de Dieu. Et au 7e siècle, un certain Isidore de Séville, qu'on connaît, va faire de la judéité une marque évidente d'incroyance. Il faut se résoudre à systématiquement expliquer qu'est-ce que tel ou tel auteur entend par incroyance. Dans la bouche d'Isidore de Séville, l'incroyance qu'il prête aux Juifs, c'est une incroyance dans le sens de l'impiété, dans le sens d'un refus de la foi chrétienne. Mais il n'empêche que dans un certain nombre de livres qu'il a écrits, notamment le Contra Judaeos, il y a une série de qualificatifs qui sont extrêmement discriminants. Il va parler d'incroyance abominable, il va parler d'incroyance dépravée ou d'incroyance pervertie. Et c'est un thème qui va traverser les siècles, puisque fin XIIe siècle, On retrouve avec Martin de Léon un certain nombre de qualificatifs tout aussi discriminants, tout aussi désobligeants. Il va introduire des nuances en quantité considérable. Il va parler d'incroyance dans la durée. Il va aborder les causes de l'incroyance, les effets, l'inflexibilité de l'incroyance de ces gens-là. Et il va aller beaucoup plus loin que l'incroyance, puisque pour lui, le juif est perfide, hein, de l'adjectif perfidus. En latin classique, le juif relève de la fourberie, de la malignité. Enfin, le terme perfidus est traduisible par fourberie ou malignité. En latin ecclésiastique, perfidus, vous le traduisez par infidèle, hein. Et le fait est que pour les deux auteurs que j'ai cités, l'incroyance des juifs est la preuve d'une vulnérabilité de la foi chrétienne. Malgré l'évidence de la foi chrétienne, les juifs persistent à ne pas y croire. Il faut donc les convertir. Et on a comme ça un certain nombre de textes, notamment en 1253, ce qu'on appelle les statuts de Jaffa. Alors c'est un texte juridique qui va réglementer le statut des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen, hein, autour de la Méditerranée. Que dit ce statut? Eh bien, il dit il faut accorder le sacrement du baptême aux infidèles comme remède à leur impiété et à leur inhumanité. Hein. On ne peut pas être plus clair. Alors, il y a les barbares qui sont étrangers par la foi, et vous avez les barbares qui sont étrangers par la langue et par la foi, c'est-à-dire les deux, à savoir les Celtes, les Germains, les Slaves. Alors, quand on va lire, non pas les témoignages de l'Église sur ces barbares, mais ce que les barbares, hein, les Celtes, les Slaves, etc., disent de leur Dieu, on a un certain nombre de textes qui sont assez troublants, qu'il faut se méfier de surinterpréter, parce que dans bien des cas, malheureusement, il ne nous reste que des bouts qu'il est parfois assez difficile d'exploiter. Et dans ces tribus barbares, on a des récits d'hommes qui ne vont placer leur confiance qu'en eux-mêmes et non en un Dieu. On a par exemple un roi danois, hein, qui s'appelle Kraki, qui est évoqué dans une saga nordique. Et on a un bout de témoignage qui nous dit, toutefois, il n'est pas raconté que le roi Kraki ou ses guerriers aient offert à un moment des sacrifices aux dieux, mais ils croyaient en leur propre force et en leur vigueur. Alors, il faut se garder une fois de plus de surinterpréter, mais il y a quelque chose à fouiller, si ce n'était la barrière de la langue. Hein. Dans un texte nordique également, un texte qu'on appelle le Landnámabók, on a des récits sur la colonisation de l'Islande, pardon, dans lesquels certains hommes sont qualifiés d'impies. Le cas qui m'intéresse le plus, c'est le cas des Saxons dans la géographie carolingienne. Hein. L'empire carolingien est un empire chrétien dans lequel les non-chrétiens n'ont pas leur place. Hein. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit le barbare est intégré au monde chrétien, le baptême servant de porte d'entrée, hein, dans ce monde chrétien. Soit il est repoussé de façon définitive et sa malignité doit être soulignée. Alors la première logique de l'intégrer au monde chrétien, il semblerait que ça soit plutôt réservé aux Saxons, quand ça fonctionne, parce que ça ne marche pas à tous les coups. La deuxième, repousser et souligner la malignité de ces barbares, ça serait plutôt réservé aux Normands, en raison des innombrables raids, hein, dont ils se sont rendus coupables, même si c'était pour des raisons qui relèvent très souvent de la nécessité, entre le 8e et le 10e siècle. Au regard de l'Église, ces Normands, qu'on appelle improprement les Vikings parfois, sont sans respect pour l'Église. Et on a comme ça quantité de miracles dans lesquels l'avancée des Normands impies, toujours des impies, est stoppée par un épais brouillard. Alors ces récits nous dressent le portrait de Vikings, de Normands, qui sont des incroyants, des impies, des païens. Alors ça dépend des textes. Dans tous les cas, on va trouver des descriptions qui relèvent du lieu commun, qui relèvent hein, de la brute épaisse. Le cinéma, c'en est fait une joie. Hein. Ce film hein, que certains certainement connaissent, on est à Hollywood. Hein. Voilà. Si vous supprimez des Vikings, tout ce qui n'est pas viking, tout ce qui n'est pas historique, et tout ce qui relève du regard porté par la géographie chrétienne sur ces impies, ces barbares, ces incroyants qui sont en dehors de la chrétienté, de ce film, par exemple, il ne va absolument rien rester, à part le regard des hagiographes chrétiens sur ces étrangers. Ce qui fait qu'on a une preuve, une énième preuve, selon les clercs de l'époque, de l'imperfection de l'évangélisation chrétienne. D'où une logique à la fois d'intégration et de diabolisation de l'autre. de l'incroyant, du païen. Logique qui va marquer la limite dans ce qui est acceptable pour le christianisme. Il y a une limite dans ce qui est considéré comme acceptable ou inacceptable selon la façon dont on le regarde. Hein. Alors, pour rentrer plus précisément dans le registre de l'incroyance et de l'athéisme, on s'est aperçu, ce sera l'objet de ma deuxième partie, que tout au long du Moyen Âge, on va trouver un vocabulaire particulièrement instructif sur ce qui peut être considéré comme de l'incroyance au Moyen Âge. Alors, il faut faire un rappel. Nous sommes à une époque où il y a quand même plus de 80% de la population qui est composée d'analphabètes et un très faible pourcentage de lettrés. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a tendance à avoir une vision du monde de ces analphabètes, qui est toujours complexe à reconstruire par héritage. Et de fait, on a une vision de cette époque qui est d'abord celle des lettrés, puisque c'est eux qui maîtrisaient l'écrit. Hein. L'incroyance ici va être à définir comme le refus de Dieu et parfois un doute très clair sur son existence. Alors, quels sont les termes qui nous renseignent sur cette incroyance? Eh bien, on a premièrement ce qu'on appelle l'acédie médiévale. L'acédie, on est à mi-chemin entre l'ennui, la tristesse, la mélancolie. Il faut se résoudre à ne pas trouver de terminologie acceptable dans le vocabulaire d'aujourd'hui, si ce n'est à réutiliser le terme acédie, qui nous vient du grec akédos, sans soin, et qui est le mal des moines cénobites et des reclus dans leur contemplation. Alors mal contre lequel nous met en garde Évagre le Pontique, on est au IVe siècle. Et c'est considéré comme une maladie spirituelle, comme une atonie de l'âme qui va mener à ce qu'on appelle la desperatio. Et la desperatio, considérée comme l'un des sept péchés capitaux, ce qui fait que l'acédie va permettre de désigner les émotions comme l'indifférence ou la répugnance envers Dieu. De fait, on a sous la plume de César von Esterbach, on est 1180-1240, une mise en garde contre les risques de l'acédie dans un exemplum. On a par exemple une jeune recluse qui est en proie à l'acédie et qui répond au prêtre qui est venu s'enquérir de son état, je cite, « Qui sait s'il y a un Dieu, des anges ou un ciel ? Personne ne l'a vu, personne n'est revenu du royaume des cieux pour le confirmer. » On est à peine à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Hein. Nous avons la cédille qui nous renseigne sur la desperation, ce qu'on pourrait traduire sommairement par le désespoir. Le désespoir, on est au-delà du péché, hein, parce que la desperation, c'est la conviction intime de ne pouvoir être sauvé. À partir de là, on est au-delà du péché parce qu'on est dans le rejet, on est dans le doute face à la miséricorde divine. Il ne faut surtout pas envisager ce désespoir sous l'angle de la faiblesse psychologique au sens contemporain. C'est une marque d'infidélité, c'est une marque d'incroyance qui va célébrer la victoire du diable. Et ce manque de confiance en Dieu à l'époque est inadmissible parce que Dieu sauve les hommes. Donc refuser cette salvation, c'est aller directement au suicide. Et le suicide, lui, est un péché totalement inexcusable. C'est un refus de l'amour divin, de la vie éternelle, que Dieu propose au-delà de la vie terrestre. Et vous avez comme ça un certain nombre de fresques de l'époque, hein, notamment celle de Giotto, on est à la fin du XIIIe siècle, hein, voilà, où on voit Desperatio mise en scène, et Desperatio mène directement au suicide. Et le fait est qu'au XVIIe siècle, le suicide reste une marque d'athéisme, très clairement, et aujourd'hui, au regard des autorités religieuses, le suicide, c'est toujours infaisable. Hein. Et on ne parle pas du suicide dépressif, on parle d'autre chose. Hein. Alors, toujours dans la série de ces termes qu'on trouve en fouillant les textes de l'époque, on a ce qu'on appelle le murmure, sans E à la fin. Alors, murmure, il faut faire attention, c'est un terme qui est utilisé de façon rétrospective par un certain nombre d'historiens allemands, qui l'utilise pour nommer ce qu'on pourrait appeler les sourdes récriminations envers Dieu. Hein. C'est-à-dire que si je lis ce qui est marqué dans l'Évangile selon saint Jean, on lit donc « Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» On va trouver un certain nombre de récriminations également sous la plume d'un certain Johann von Staupitz, je ne garantis pas la prononciation, mais qui est connu pour être le confesseur de Martin Luther. Avec ce confesseur, la souffrance du malade proche du trépas peut générer la conviction, je cite le confesseur, qu'il n'y a pas de Dieu, donc qu'il n'y a pas de justice. On est dans la mise en doute du divin, mise en doute qui, à l'époque, est inacceptable, enfin à l'époque, aujourd'hui encore, hein, on regarde des autorités religieuses. Au Moyen-Âge, cette protestation, ce râle contre l'injustice, est ouvertement considérée comme un péché. Et du même coup, c'est l'omnipotence de Dieu qui est battue en brèche. Il n'y a pas encore d'athéisme au sens contemporain, plus vraisemblablement une désolation, un ressenti face à la non-intervention, face à ce qui est perçu comme un certain désintérêt de Dieu face à la souffrance. Toujours dans la terminologie, alors là c'est plus que la terminologie, c'est un courant de pensée, ce qu'on appelle l'apophatisme, du grec apophasia, négatif. C'est une théologie négative qui, tout en conservant le sens de l'incompréhensibilité de Dieu, définit Dieu par ce qu'il n'est pas. Et 5e, 6e siècle, Denis l'Aréopagite, par exemple, va définir cette approche négative comme la seule possible. C'est-à-dire qu'une fois l'ensemble du monde connu étudié, il ne reste que Dieu en tant que grand inconnu. Et une pratique comme l'apophatisme suppose une approche critique, voire une mise à l'écart du discours religieux. Il faut relativiser les vérités, même révélées, pour étendre le champ d'étude. Mais le problème, c'est qu'à force de mettre le divin à l'écart, vous avez une montée non pas de l'athéisme, mais de l'agnosticisme, qui évidemment n'est pas là aussi sans poser un certain nombre de problèmes aux autorités religieuses de l'époque. Qu'en est-il de l'incroyance chez les intellectuels chrétiens ? Vous avez quantité d'intellectuels qui évoquent ouvertement l'incroyance. Là, par contre, on a gardé les textes. Vous avez un certain Othon de Saint-Amérand. Nous sommes au XIe siècle, c'est un moine bénédictin à Ratisbonne. Et dans le livre des Tentations, il écrit, je cite, « Je doutais tout à fait de la vérité de l'Écriture et de l'existence d'un Dieu tout-puissant. » Alors là aussi, il faut se méfier. On n'est pas dans l'athéisme au sens où on l'entend aujourd'hui. Du moins, ce n'est pas certain, parce que pour ça, il faudrait avoir plus de textes, ou du moins pas que des bouts, ce qui parfois est compliqué. Mais du moins, il y a la volonté de savoir si la foi chrétienne à laquelle ce Othon de Saint-Amérand a consacré sa vie est la bonne. Dans le registre du doute, il n'est pas le seul à l'avoir fait, hein, à l'avoir écrit. Toujours chez les intellectuels chrétiens, on va retrouver des témoignages qui sont rapportés par le même Césaire von Esterbach, notamment une religieuse qui est récemment entrée au monastère et qui va regretter sa décision. Et là, oui, on a un témoignage explicite pour l'existence d'un athéisme au Moyen-Âge, puisque cette religieuse dit très clairement « Ne plus croire, je cite, ni en l'existence de Dieu, ni en l'existence des anges et du ciel. » Et certainement, on en a beaucoup d'autres des comme ça, mais la barrière de la langue est parfois problématique. Si j'avance un petit peu dans le temps, on va trouver des gens qui, pour nous aujourd'hui au XXIe siècle, ne seraient pas rangés dans la catégorie des incroyants, mais qui, au XIVe siècle, sont mis dans la catégorie des incroyants. XIVe siècle, bah, c'est notamment, on pourrait en trouver beaucoup d'autres, hein, un certain Nicolas d'Autrécourt, qui est philosophe et théologien, et qui en 1330 va écrire son Exiguit Ordo. La thèse principale de son livre, c'est qu'il ne faut pas confondre une succession d'événements et la causalité entre ces événements. Ce n'est pas parce que des événements se succèdent les uns aux autres qu'il y a forcément un lien de causalité entre ces événements. Ça veut dire que l'existence de Dieu peut être considérée comme une réalité, mais uniquement en tant qu'acte de foi. C'est tout. Hein. Il n'empêche que dans son livre, il nie hein, Dieu comme principe causal, initial ou même partiel de ce qui arrive. On est au IVe siècle, c'est inenvisageable à l'époque, et comme quantité d'autres personnes à l'époque, il va avoir des soucis avec les autorités. Et de fait, aujourd'hui encore, pour certains historiens, Nicolas d'Autrécourt est athée pour certains historiens, presque athée pour d'autres, Alors, en ce qui me concerne, il est ni athée ni presque athée. Il est incontestablement un matérialiste. Il tire sa philosophie de l'Antiquité, d'Épicure, vraisemblablement de Démocrite, puisqu'il nous dit très clairement que, hein, c'est Nicolas d'Autrécourt qui parle, le non-être ne peut produire de l'être. Les éléments naturels sont composés d'atomes. Hein. L'atomisme au XIVe siècle, c'est un coup à finir au bûcher, ce qui sera le cas d'ailleurs pour beaucoup. Hein, donc les éléments naturels sont composés d'atomes qui s'attachent et se détachent, et il dit très clairement que rien ne naît de rien. Hein. Ce qui fait que 1346, eh bien, il est condamné. Il va être obligé d'abjurer ses théories. Ses livres sont brûlés, il va être destitué de sa licence qui lui permet d'enseigner la théologie, et il va sauver sa vie, hein, en disant que tout ce qu'il a écrit, finalement, ça n'était que matière à discussion. Il ne tient pas tout ça pour vrai. Voilà, pour lui, c'est matière à discussion. Donc, ce qu'il dit est contestable. Bon, on peut le comprendre, il faut sauver sa vie. On n'est pas encore à la grande époque des bûchers, mais enfin, malgré tout, il y en a qui meurent pour beaucoup moins de ça. On trouve également quantité de témoignages chez les laïcs de l'époque. On va la trouver chez les nobles, notamment chez Frédéric II. Alors Frédéric II, c'est 1194-1250. Il est empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est un empereur qui est pris d'astrologie. C'est un esprit incontestablement sceptique. Ses détracteurs sont assez élogieux à son sujet. Je suis ironique, puisque pour Grégoire IX, Frédéric II, c'est l'antéchrist. Il affirme que les prophètes sont des imposteurs. Grégoire IX le considère comme le nouveau Lucifer. Hein. À l'époque, c'est quand même grave. Hein. C'est un coup à avoir des soucis là aussi. Si on avance un petit peu dans le temps, vous avez des témoignages postérieurs à Frédéric II qui sont tout aussi élogieux. Pour Fra Salim Bene, alors Fra Salim Bene, c'est un moine bénédictin du XIIe siècle. Frédéric II, c'est un athéiste. Si j'avance encore dans le temps, pour Villani, qui est chroniqueur florentin à la fin du XVe siècle, Manfrène, qui est le fils de Frédéric II, ne croit ni en Dieu, ni au saint, mais seulement au plaisir de la chair. Hein. Si je continue à avancer dans le temps, pour Louis Moreri, qui est prêtre et théologien français au XVIIe siècle, Frédéric II, c'était un impie jusqu'à l'athéisme. Alors là aussi, il faut se souvenir de ce que j'ai dit en introduction. Le terme athéisme est un terme fourre-tout, comme toujours, qui relève de l'insulte. Avec Frédéric II, ses détracteurs s'en donnent à cœur perdu, si je puis dire. C'est athée, mais dans le sens du refus du Dieu chrétien, parfois dans le refus du monothéisme. Pour un chrétien, la foi musulmane, par exemple, c'est pas une foi, c'est quelque chose qui n'est pas recevable. Alors pour les musulmans aussi, mais ça c'est un vieux jeu de miroir. Et de fait, on va attribuer pendant longtemps à Frédéric II le thème même des trois imposteurs. Alors le thème des trois imposteurs, c'est les trois prophètes, Moïse, Jésus et Mahomet, sont des trompeurs. Alors pour faire simple et rapide, Jésus est un marchand de rêves absurdes, Moïse est un magicien, quant à Mahomet, il est fourbe. Hein. Et pendant très longtemps, on va attribuer à Frédéric II la rédaction du fameux traité des trois imposteurs. Alors le problème, c'est que sur le plan historique, c'est faux, puisque le traité des trois imposteurs, c'est tout au long du Moyen Âge un texte fantôme qui en réalité va être écrit très tardivement, puisqu'on le trouve mis à l'écrit uniquement au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pendant des siècles, on va courir après un texte qui en réalité n'existe pas et qui, pour X raisons, sera mis par écrit, donc je vous disais, au XVIIIe siècle. Alors, sur Frédéric II, quelle conclusion on peut valablement faire? Vraisemblablement, c'est un esprit critique, au sens, certainement également agnostique, au sens du fait qu'il utilise la raison pour vérifier ce qui est dit, hein, ce qui nous amène également au poids de l'intellectualisme à l'époque. Alors, il y a d'autres noms d'incroyants parmi les nobles de l'époque. On a notamment l'impératrice du Saint-Empire au XVe siècle, à savoir Barbara Cilli. Alors, Barbara Cilli, mon grand regret, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose parce que tout est en allemand, les sources sont en allemand, les études sur cette personne est en allemand, mais vraisemblablement, elle avait des propos qui relèvent plus de l'athéisme que de l'incroyance. Alors, malheureusement, à mon grand désespoir, je ne pourrais pas vous les relayer. Autre marque d'incroyance à cette époque, chez les laïcs, l'anticléricalisme. Alors, il faut faire très attention avec l'anticléricalisme. Aujourd'hui, nous effectuons une différence de degré avec l'athéisme. L'anticléricalisme, pour nous aujourd'hui en 2019, ça n'est pas de l'athéisme. On peut tout à fait être contre l'Église et avoir sa propre conception de Dieu et être croyant malgré tout. Néanmoins, au Moyen-Âge, cette différence n'est pas forcément perçue comme telle par l'Église. Il ne faut pas oublier que nier l'Église, c'est nier Dieu. Hein, les gens, ça ne nous empêche pas, les gens au quotidien, de critiquer l'Église, de la nier. Parfois, ça leur attire une fois de plus des soucis, mais c'est quand même la règle qui est posée par l'Église. Alors, parmi les anticléricaux notoires de l'époque, alors je vais laisser de côté l'anticléricalisme occitan, parce que vous n'avez pas besoin de moi à Toulouse pour retrouver ça, hein, on pourrait en remplir des pièces entières, notamment chez les troubadours hein, du XIIe, XIIIe siècle. Vous avez une littérature qui est très prolifique à cette époque. Parmi les anticléricaux de l'époque, on va trouver les goliards. Alors, les goliards, c'est qui? Ce sont des clercs, si tant est qu'on puisse encore parler de clercs, ce qui n'est pas garanti. En rupture de banc, nous sommes au XIIe siècle. Pour beaucoup, ce sont des étudiants très pauvres et ce sont plus des libertins profanes que des athées au sens où on l'entend aujourd'hui. Par nécessité, parce qu'il faut bien manger, ils vont devenir jongleurs, bouffons, domestiques auprès d'autres clercs. Ils sont mauvais garçons, mauvais chrétiens. Et le mode de vie des goliards est jugé extrêmement licencieux par les autorités religieuses de leur temps. Le XIIIe siècle est de fait un temps où vous avez une quantité considérable de conciles qui va multiplier leur mise à l'écart au point qu'ils vont totalement disparaître en même temps que le terme qui les désigne. Alors il ne faut pas chercher sous le mot goliard un individu précis, c'est un amas de gens voilà, qu'on a regroupés et qui se regroupaient à l'époque sous le terme de goliard sans qu'on puisse véritablement retrouver une étymologie valable à ce terme de goliard. Il n'y a rien qui fait consensus. Mais chez ces incroyants, ces hérétiques, ces païens également, certains les appelaient des païens, une chose est claire, la taverne est un lieu de rendez-vous évident. On se donne rendez-vous à la taverne du coin. Et ils ont une thématique qui ne peut que déplaire à l'Église, une thématique qui est centrée sur les plaisirs de la vie. À savoir, si on classe les témoignages de l'époque, les ripailleries, les jeux d'hiver, hein, les rapines en tout genre, la mendicité et les autres interdits. Avec, dans les plaisirs de la vie, un intérêt tout particulier pour la sexualité, qui se caractérise par une obsession du passage à l'acte qui est absolue, et qui vient en contrepoint total de l'amour courtois de l'époque. Hein. Ce qui fait que le pape va être critiqué pour son appétit de richesse, pour l'échec que représentent les croisades. Le clergé séculier va être vilipendé, à une exception près, le curé miséreux. Ils ont bien compris que le curé miséreux, bon, bah, il fait ce qu'il peut, il est comme beaucoup, il essaye de survivre à l'époque. Le moine est considéré comme un paillard paresseux. Ce qui va poser problème à l'Église, c'est surtout le fait qu'ils adorent Vénus comme symbole de liberté et Bacchus, dont l'aversion pour l'eau fait aisément passer le baptême pour une plaisanterie. Alors le fait qu'ils adorent Vénus et Bacchus, ça ne doit pas nous amener à la conclusion qu'ils cherchent à réhabiliter le paganisme, parce que ça n'est absolument pas ça. Mais pour l'Église, adorer ces idoles, hein, Vénus et Bacchus, idoles qui avaient été abattues par le christianisme, en soi, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Et de fait, après le XIIIe siècle, ces goliards, il n'en restera pas grand-chose. On a conservé néanmoins leur poésie, enfin leur texte du moins, de l'époque. On va trouver également quantité de témoignages d'incroyance parmi les gens du peuple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors là, il faut aller voir ce qui se passe du côté d'un petit village d'Occitanie, hein, Montaillou. On est à la fin XIIIe siècle, début XIVe siècle. Alors Montaillou est très connu puisque le roi Ladurie en a fait une étude exemplaire hein, qui devrait être citée en exemple. Et à Montaillou et les petits villages qui sont autour, on va trouver un certain Raymond de Lerre qui a des propos sans concession et sans doute possible sur une incroyance de sa part qui est vraiment à la limite d'un matérialisme athée. Il en faudrait de peu pour qu'on franchisse le pas. Qu'est-ce que nous dit Raymond de Lerre? Très clairement, je cite, « Ce que disent les prêtres, c'est de la truffe. Le paradis, c'est quand on est bien dans ce monde-ci. L'enfer, c'est quand on y est mal. Hein. Il n'y a pas de résurrection. L'âme, c'est quoi? C'est du sang. Et sur la place du village, devant trois habitants du cru, il aurait déclaré, selon les textes juridiques de l'époque, Dieu le Christ, c'est pareil, a été fait dans le foutre et dans la merde, en branlant et en foutant. C'est-à-dire en donnant la queue par le coït de l'homme et de ta femme, parce qu'il parle à ses camarades de village, tout comme nous autres. Hein. Un autre habitant d'une paroisse proche, il aurait. Enfin, non, c'est un autre habitant d'une paroisse qui affirme un scepticisme évident en disant Ressusciterons-nous avec ses chairs et ses os? Allons donc. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein, voilà. Des témoignages comme ça, on en a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des quantités considérables. On a comme ça, en Germanie, un homme du XIVe siècle à qui on aurait demandé s'il connaissait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il aurait répondu qu'il connaissait très bien le Père et le Fils puisqu'il s'occupait des moutons à côté, mais qu'il n'avait jamais entendu parler du troisième parce que personne ne s'appelait Saint-Esprit dans son village. Des témoignages comme ça, qui pourraient faire bondir l'Église de l'époque et qui, en réalité, relèvent de ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le bon sens. On peut reprendre l'expression « bon sens », même si, historiquement, il peut paraître anachronique. On en a en Espagne, on en a en Italie, hein. Et de fait, on en a aussi en France. Alors il faudrait analyser hein, pourquoi ces témoignages, hein, peut-être plus tôt dans certaines régions du monde que dans d'autres. Pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Peut-être que dans le monde germanique, il y a le fait que les princes-évêques ont à la fois la casquette politique et religieuse, donc ça, peut-être ça rendait plus aisée hein, la critique. Il faudrait étudier la question. Alors, quoi qu'il en soit, l'incroyance existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle relève du doute, du désespoir, de l'impiété, de l'infidélité, mais l'athéisme aussi. Alors, je n'en ai donné que peu de preuves, sauf l'exemplum que je vous ai cité tout à l'heure. À mon grand regret, je vous l'ai dit et je le redis, les sources sont en allemand et je n'ai fait qu'anglais-italien. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que on doit se poser la question de savoir pourquoi il est si difficile de trouver au Moyen Âge des marques d'athéisme. Je laisse de côté la barrière de la langue. Mes confrères prestigieux en Allemagne hein, en ont beaucoup plus que moi. Il y aurait sur la rareté de l'athéisme quelques explications que je qualifie de convenues. Il faudrait tabler sur la rareté de l'incroyance et d'un athéisme assumé par peur des représailles. Alors, cette raison-là, on ne peut pas l'exclure. Dire en place publique à l'époque que Dieu n'existe pas, bon, vous risquez incontestablement d'avoir des soucis. Mais le fait est que l'athéisme, l'incroyance, a longtemps été utilisé comme l'épouvantail apologétique hein, des croyants, des dévots. Faites attention, si vous êtes un incroyant, hein, vous allez avoir des difficultés. Il faut rappeler hein, le psaume 14, seul l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ça paraît quelque chose qui est absolument inenvisageable de dire que Dieu n'existe pas, sauf s'il s'agit du Dieu de l'autre. Le Dieu de l'autre n'existe pas. Mais le mien, celui de la société dans laquelle j'existe, et le vrai Dieu, s'il faut en croire les autorités religieuses. Ceci étant dit, la difficulté de trouver des marques d'athéisme explicite doit trouver d'autres explications qui reviennent très clairement sur ce qu'ont dit beaucoup d'historiens dans les décennies précédentes. Il faut, à la lecture des sources, accepter que, au Moyen Âge, ce que nous appelons aujourd'hui l'athéisme n'est pas l'ennemi public numéro un, si je puis utiliser cette expression. C'est un péché, mais ça n'est pas un crime juridiquement sanctionnable, du moins pas dans ce monde. Alors, si je lis Dante sur le plan spirituel, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, sur ce que l'incroyant et l'athée peut attendre dans l'au-delà, il ira rejoindre le sixième cercle des enfers avec les hérétiques, les incroyants, les gens contre l'Église. Hein, ensuite, vous avez le septième siècle pour les sodomites, les suicidés et les blasphémateurs. Hein. Mais il n'empêche que pour l'Église médiévale, la lèpre à combattre, dans une époque où la foi a son importance, c'est l'hérésie. Et si on regarde certaines images d'époque, on a par exemple celle-là. Alors sur celle-là, qu'est-ce qu'on voit? On a un croyant à qui on donne le corps du Christ. On a un personnage à qui on va se contenter de donner un bout de pain. Et on a ici, ce qui est incontestablement, la couleur de peau nous renseigne, un mort, c'est-à-dire un hérétique, un musulman, un infidèle, vous l'appelez comme vous voulez, à qui on va donner non pas du pain ou l'hostie, mais un insecte. Ce qui fait qu'on a une interprétation possible de cette image d'époque, c'est-à-dire le glissement de la croyance vers ce qui est le plus inacceptable. Et le plus inacceptable au Moyen Âge, ça n'est pas l'incroyance, ça n'est pas l'athéisme, c'est l'hérésie, notamment l'islam à l'époque, enfin, ou plus exactement, la loi musulmane. Ce qui fait que bah, l'athéisme, effectivement, est difficile à retrouver. On pense que les autorités religieuses de l'époque faisaient la différence entre incroyance, athéisme, hérésie. Est-ce que pour autant elles étaient disposées à établir une telle différence dans un procès? Vraisemblablement pas. Peut-être elles l'ont fait, peut-être elles ne l'ont pas fait. Là, il faudrait épuiser les registres juridiques de l'époque. Certainement que dans bien des cas, les deux ont dû être confondus dans les peines décidées à l'époque. Même si on fait intellectuellement la différence, en pratique, est-ce que l'Église était disposée à faire une telle différence? Vraisemblablement pas, hein. On peut également se demander pourquoi cette lutte contre l'incroyance, l'athéisme, le matérialisme. Alors, ça pourrait nous donner l'occasion d'une autre intervention. Si je veux faire très simple, bah, je donne la parole à Anselme de Canterbury. On est en 1076. Et dans son monologuion, il dit la chose suivante: le but est d'approfondir la foi et de l'ancrer dans une compréhension intellectuelle, et non pas de gagner à la fois des esprits indociles ou obtus. Alors dans la catégorie des esprits indociles ou obtus à l'époque, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Autre raison qui fait qu'on a du mal à trouver l'athéisme au Moyen Âge, eh bien c'est en raison des historiens des mentalités, mais du XXe siècle. Pendant très longtemps, on a gardé en mémoire l'œuvre de Lucien Febvre, hein, 1942 de mémoire, L'incroyance au temps de Rabelais. Et Lucien Febvre affirmait que l'athéisme était impossible à conceptualiser au XVIe siècle. Donc, on comprend sans peine, et c'est dit dans sa thèse, on ne peut pas non plus le conceptualiser avant le XVIe siècle. Pourquoi, selon lui, on ne pouvait pas le conceptualiser? Parce que l'outillage mental faisait défaut aux hommes du XVIe siècle et aux hommes du Moyen Âge. Il leur manquait, hein, je schématise à grands traits, les mots et les concepts pour penser une telle incroyance. Alors, Lucien Febvre est historien des mentalités, mais le terme mentalité, il va l'emprunter à Lévi-Bruhl. Et Lévi-Bruhl, c'est le père de l'anthropologie française. Le terme mentalité, qu'on le veuille ou pas, Lévi-Bruhl, hein, on est 1915-1920 par là, la thèse de Lucien Febvre sur l'incroyance de Rabelais, c'est 1942. Donc ça reste quelque chose d'assez proche et d'assez frais. Pour Lévi-Bruhl, il y a la mentalité primitive, c'est l'enfance de l'humanité, et par opposition, vous avez la mentalité civilisée, qui est l'âge adulte de l'humanité. Et du coup, ce concept de mentalité est utilisé pour rendre compte des mentalités avant la modernité cartésienne. C'est-à-dire qu'il y aurait une mentalité primitive, entre guillemets, avant l'époque cartésienne et une mentalité ou des mentalités plus abouties à partir de la modernité cartésienne. Sauf que si on creuse, on s'aperçoit que c'est une conception de la mentalité qui n'est pas dépourvue de positivisme, de colonialisme. On est en 1920 avec Lévi-Bruhl, d'un regard porté sur l'autre qui pose problème. Alors effectivement, dans une telle conception du terme mentalité, il n'y a pas d'athéisme avant le XVIe siècle, effectivement. Parce que, de fait, les individus ne possédaient pas l'outillage mental pour le penser. Et du coup, on en arrive à cette conclusion que le Moyen Âge et le XVIe siècle, c'est une croyance englobante. Alors, il faudrait regarder si, à l'époque de Lucien Febvre, il y a déjà des études sur le lucianisme, par exemple, qui, au XVIe siècle, est ouvertement considéré comme un athéisme. Hein. Le lucianisme au XVIe siècle, c'est de l'athéisme. On reprend les pensées de Lucien de Samosate, on est au IIe siècle, et le menteur ou l'incrédule, bah, ce sont ceux qui ne croient pas aux vérités de la religion, donc des incrédules, des incroyants. De fait, le Moyen-Âge ne pardonnera jamais à Lucien de Samosate un certain nombre de ses sarcasmes. Mais le fait est que les disciples de Lucien de Samosate au XVIe siècle sont ouvertement considérés comme des athées. Et quand on lit les sources, on retrouve toujours ce gros problème, c'est que les critiques de l'incroyance ne s'embarrassent pas de complexes pour ne pas définir l'athéisme. Ça permet de fondre, une fois de plus, dans une même masse, la totalité des objecteurs de pensée, j'allais dire, de cette époque. Alors, en conclusion, une longue conclusion, parce qu'il y a beaucoup à dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette série de cas d'incroyants à différents degrés ? L'incroyance et l'athéisme au Moyen-Âge, c'est un fait avéré, hein, historiquement incontestable. J'arriverai bien à trouver des traductions avec les années qui viennent. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, ça n'est pas une invention tardive du curé Mélier. Hein. Michel Onfray a expliqué ça dans son traité de théologie. Il n'y a pas d'athéisme absolu, au sens où on l'entend aujourd'hui, avant le curé Mélier, on est au début du XVIIIe siècle. C'est ce qu'affirme encore toute une historiographie dominante, en raison d'un présupposé qui va lier le développement du progrès technologique et la baisse de la religiosité. Sauf que, anthropologiquement parlant, toute société va disposer de sa religion organisée et de ses athées, ses incroyants, ses hétérodoxes, ses déviants. Voilà. Et si on regarde le Moyen-Âge, très chrétien, le fait est que les déviants, parlons de déviants exceptionnellement, pourraient être légion, si je puis reprendre l'expression. Alors, où est-ce qu'on pourrait fixer la limite entre incroyance et athéisme ? Pour nous, au XXIe siècle, c'est assez simple, entre guillemets. C'est le passage à l'établissement d'un système de pensée. Dans l'athéisme, le isme suppose, une fois de plus, la construction d'un système de pensée. Au Moyen-Âge, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les érudits chrétiens de l'époque, hein, entre le 7e et le 16e siècle, lorsqu'ils parlent d'un croyant, d'incrédule, parlent généralement, je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui n'est pas chrétien, en commençant par l'islam et le judaïsme. Donc c'est pas forcément simple. Il y a également un problème lié à l'interprétation de l'athéisme. Ce qui pour nous, en 2019, relève ou pas de l'athéisme, n'a pas le même sens au Moyen-Âge. Dans une époque où, qu'on le veuille ou pas, laissons Lucien Febvre de côté, les mentalités, de fait, ne sont pas les mêmes. Ils ne pensent pas le monde comme nous. Lorsque vous avez un évêque qui refuse les sacrements en disant qu'il n'a assumé sa charge que pour l'argent et les honneurs, pour nous, ça relève du sacrilège, du blasphème. Ou, si je le mets à l'autre bout de l'échiquier, de la liberté d'opinion. Un évêque qui dit ça aujourd'hui, bon, il ne le dira pas haut et fort devant sa hiérarchie, mais bon, il peut le penser, c'est lui que ça regarde. Au Moyen-Âge, même si le terme athée n'a pas encore réapparu, j'ai cherché dans les dictionnaires d'époque, il ne réapparaît vraiment qu'au XVIe siècle, pas avant. Il n'empêche que la distinction entre les deux n'est pas aussi évidente que pour nous aujourd'hui au XIXe siècle. Troisième conclusion, il y a sur l'incroyant, j'avais l'occasion d'en parler il y a quelques années ici, un préjugé qui est véhiculé hein, par les nobles, lettrés, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que cette incroyance, cet athéisme est exclusivement véhiculé par les nobles. En réalité, et contrairement à ce qu'on entend dire certains historiens, l'incroyance est aussi véhiculée par quantité de gens de la petite classe moyenne. Raymond Delaire, Montaillou, c'est la petite classe moyenne. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on appellerait aujourd'hui la France d'en bas, pour reprendre une expression malheureuse de nos politiques d'aujourd'hui. C'est la petite classe moyenne de l'époque. Et finalement, on s'aperçoit que l'élite intellectuelle cléricale a un degré d'emprise qui est plus limité qu'on ne le pense sur les individus du Moyen-Âge. Que l'Église ait construit l'Occident, c'est une chose, Mais l'emprise de l'Église n'a jamais été totale, absolue, incontestée, incontestable. Ça, c'est un lieu commun. Et de fait, on le sait parce que l'Église de l'époque, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas été très très clair, vous avez les minoresses, hein, c'est-à-dire les clercs, qui eux doivent adhérer à la totalité du dogme, et vous avez les majoresses, les laïcs, qui eux, on leur demande uniquement de pratiquer, d'aller à la messe le dimanche, c'est en latin, ils n'y comprennent pas grand-chose, mais pendant longtemps ça gêne pas, c'est-à-dire qu'on est dans l'orthopraxie, beaucoup plus que dans l'orthodoxie. Alors comment on sait tout ça sur la petite classe moyenne de l'époque? Eh bien, on le sait en lisant les registres d'Inquisition, notamment de Jacques Fournier. Hein. Alors Jacques Fournier, 1318-1325, il est évêque de Meaux. Et en lisant le registre d'Inquisition, on a quantité d'informations sur les personnes qui ont été interrogées et qu'on pourrait regrouper, alors je sais que ça fait beaucoup de catégories, mais parfois on n'a pas le choix, en deux catégories. Hein. Donc on trouve dans le registre d'Inquisition de Jacques Fournier, les incroyants qui ont une attitude passive, c'est-à-dire ceux qui vont simplement se contenter de répéter des paroles qu'ils ont entendues et auxquelles ils vont adhérer ou pas, on ne sait pas trop. Alors ça représenterait, on a fait le calcul, à peu près 13% des cas connus par le registre de Jacques Fournier. Deuxième catégorie, ceux qui font preuve d'incroyance, mais suite à une réflexion personnelle. Et cette réflexion personnelle, elle concernerait 87% des cas connus. Et quand on étudie ces réflexions personnelles, on va obtenir trois axes de réflexion. Alors le premier axe de réflexion, c'est l'empirisme. Pourquoi est-ce que je suis un croyant? Eh bien parce que l'expérience de la réalité vécue par Raymond Doller, hein, vraiment les gens du peuple, ne s'accorde pas aux réalités religieuses. Si je retourne à Montaillou, j'ai le témoignage d'une certaine Guillemette Benet qui, en veillant à un enfant mort, constate que rien n'en sort à sa mort, surtout pas l'âme. Hein. Autre exemple hein, de propos tenus à Montaillou, Dieu n'a aucun impact sur le temps qui fait. Hein. Là, comme ça a l'air de rien, mais une fois de plus, vous niez Dieu comme principe causal. On est dans une sorte de naturalisme rural, pourrait-on dire, qui n'est pas sans poser problème. Deuxième axe de réflexion qui mène à l'incroyance, la métaphore, la comparaison. Les gens sont peu instruits, sont dans l'écrasante majorité analphabètes. Il faut pas pour autant imaginer qu'ils ne font pas marcher leur cerveau et ils vont utiliser la métaphore, la comparaison, à partir de choses de leur vécu quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont traduire en images leur expérience, et cette traduction en images leur permet, dans une certaine mesure, un passage à l'abstraction. Qu'est-ce qu'on trouve comme témoignage? Surtout, je reste à Montaillou, l'hostie est semblable à la rave et n'a pas plus de valeur qu'elle. Hein. Et des proverbes locaux comme ça, on en a une quantité considérable. Hein, alors, on en a tout le temps est et tout le temps sera comme avec femme d'autrui couchera. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'a ni début ni fin. Hein. Troisième axe de réflexion personnelle qui mène à certaines croyances. Alors, là, on ne peut pas généraliser, on est obligé de se contenter des cas qu'on a dans le registre de Jacques Fournier. L'accord ou le désaccord entre les parties, quand il y a dialogue entre deux parties qui n'ont pas les mêmes opinions. Alors, un exemple très simple, je reste toujours à Montaillou. Grazide Lisier, qui est paysanne, elle tient des propos pleins de bon sens. Alors, elle a une liaison charnelle avec l'ecclésiaste, pardon, du coin, et elle va expliquer à Jacques Fournier la chose suivante. Comme à cette époque, cela plaisait et à moi et à lui, je ne croyais pas, et il ne me semble pas que c'était un péché. Mais maintenant, comme cela ne me plaît pas, si j'étais connu par lui, je croirais péché. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa réflexion, pour le peu qu'on a de ce qu'elle pouvait penser, ça suppose que le péché n'existe que s'il y a désaccord entre les individus concernés par une même affaire. Alors, en l'occurrence, c'est une affaire sexuelle, mais si je pousse la réflexion plus loin, alors toujours avec quelques précautions, le bien ne produit que le bien. Hein. Alors, évidemment, en termes de liberté sexuelle, la région de Montaillou semble être assez tolérante. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les régions et de toutes les paroisses de l'époque. Hein. Alors, autre conclusion, si j'avance dans le temps, que j'arrive au XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle est jalonnée, comme ça, d'un certain nombre de croyants chrétiens anglo-saxons qui ont formalisé ce qu'on appelle les théories de la mort de Dieu. Alors, je ne vais pas les développer ici, parce que là aussi, ça pourrait nous mener fort loin. Pour faire très simple, Dieu est mort dans le Christ, et certains vont développer l'idée d'un christianisme athée. Mais ces théologies, elles sont moins le fruit d'attaques extérieures contemporaines à la religion que d'une certaine culture médiévale qui date de l'époque dont je vous parle depuis bientôt une heure et qui véhicule en elle également un certain nombre d'idées qui vont à l'encontre des énoncés religieux que l'on connaît. La conclusion qui va m'intéresser le plus, c'est en quoi est-ce que l'incroyance, l'athéisme, au Moyen Âge et aujourd'hui, sont des données inacceptables. Parce que vous pouvez baliser comme ça toutes les sociétés, le Moyen Âge chrétien, le monde musulman aujourd'hui, etc. Ça reste une donnée inadmissible, inacceptable. Le fait est qu'au Moyen Âge, cette sanction existe, mais c'est toujours un inacceptable qui est fonction d'un contexte. Hein. Donc les limites de cet inacceptable sont toujours changeantes et on n'a pas d'autre solution que de toujours recontextualiser, de faire attention aux énoncés religieux. Hein. Vous savez qu'un énoncé religieux, mais pas que religieux, porte toujours en lui un contre-énoncé. Si je dis Dieu existe, de façon implicite et contre-intuitive, j'entends qu'on peut dire aussi donc Dieu n'existe pas. Ensuite, il faut avoir la possibilité de le dire librement, mais ça, c'est encore un autre problème. Alors, qu'est-ce qui est si inacceptable dans l'incroyance? On le trouve partout. Alors, là, rapidement, je sors du champ de recherche qui est le mien. Si je regarde de façon transséculaire et transsociétale, il y a trois éléments qui permettent d'expliquer la réussite de notre race, entre guillemets, le mot race, hein, c'est-à-dire Homo sapiens. Vous avez l'empire, régime politique, la monnaie et la religion, avec ou sans Dieu. L'histoire est remplie de religions sans Dieu. Et il faudrait se pencher sur la question suivante. Être contre la religion avec ou sans Dieu, c'est-à-dire c'est être contre ce qui, du moins à une époque, favorise l'unité du groupe humain et lui permet de réussir à l'échelle planétaire. Et du coup, quand vous vous placez dans la perspective de l'incroyance, ça pose la question, qu'est-ce que cette réussite de l'espèce humaine a de si nuisible qu'on refuse de souscrire à cette réussite? Alors, j'ai gardé cette problématique-là pour la fin. Elle n'est pas de moi, elle est de Monsieur Harari, j'ai plus son prénom en tête parce que il a un prénom assez difficile à prononcer. Yuval, voilà, vous le trouverez en librairie sans difficulté. Alors, je ne fais pas souvent de bibliographie précise. D'habitude, j'arrive avec mes livres que je montre. Alors, d'année après année, ce sont assez systématiquement les mêmes, puisque vous savez qu'en langue française, des histoires de l'athéisme, il n'y en a qu'une seule, celle de Georges Minois. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. La mienne est encore loin d'être terminée, loin de là. Quelques noms, notamment les deux premiers. Alors, j'ai failli à un moment appeler Eric pour lui dire que je ferais quelque chose sur l'hétérodoxie religieuse, parce que la barrière de la langue pose énormément de problèmes. Vous avez deux historiens allemands, hein, les deux premiers sur la liste, qui ont vraiment battu en brèche un certain nombre de considérations. Vous avez un livre en anglais, celui de John Arnold, sur la croyance et l'incroyance dans l'Europe médiévale. Vous avez en italien également le Moyen Âge des incrédules, qui permet donc de retrouver quantité de témoignages. Mais à mon grand regret, j'ai dû me contenter pour l'athéisme explicite, hein, oh, bon tant pis, des deux premiers personnages sur la liste. Ce qui fait que, une fois de plus, je me répète et je m'en excuse, Je n'ai pas d'autres cas d'athéisme explicite, non pas qu'il n'existe pas, mais je ne me suis pas encore mis à l'allemand. Mais il y a un fait incontestable, il y a de l'incroyance au Moyen Âge, il y a du doute, ça, il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Vous avez aussi un athéisme, pardon, explicite à cette époque. Voilà, ça paraît évident, sauf lorsque on ne veut pas le trouver. Et on en a depuis déjà plusieurs années la preuve. Vous avez comme ça ce texte qu'on appelle le Théophrastus Redivivus, qui a posé d'énormes problèmes aux historiens. À l'époque où Onfray rédige son traité de théologie, il part du principe que le Théophrastus n'est pas un texte athée, et il se réfère à une thèse d'une historienne, bon, thèse qui est extrêmement contestée aujourd'hui. Depuis, on a retraduit le Théophrastus. Hein, le Théophrastus, on est au XVIe siècle. On l'a retraduit en totalité. On a repassé une thèse sur la question. Et la deuxième thèse, on arrive à cette conclusion que c'est un texte athée sans ambiguïté aucune. Donc, bon, ça, ce sont des détails d'historien. Mais voilà, sachez-le, il y a de l'athéisme au Moyen Âge. Il y aurait d'autres pistes à creuser, très intéressantes. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas m'y résoudre, faute d'accès, enfin, faute de parler l'allemand. Je vous remercie.